Donc, c'est l'évangile de Luc, chapitre 21. Vous savez, c'est ce chapitre où Jésus parle à ses disciples en leur expliquant ce qui va se passer à la fin des temps et en leur disant « Quand vous verrez ces choses se passer, vous saurez que je reviens bientôt. » Et il y a deux versets particulièrement qui m'ont touchée en lisant ça récemment. D'abord, c'est le verset 28, donc Luc 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes. » Parce que votre rédemption approche. Donc ça, c'est la première. Et ensuite, juste un peu plus loin, au verset 34, je vais commencer au verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et verset 34, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. En fait, je trouvais que ces deux versets étaient allés ensemble parce que, en fait, Jésus encourage ses disciples. Il leur a raconté toutes les choses horribles qui allaient se passer. Et il leur dit, vous, quand vous allez commencer à voir ça, au lieu de vous inquiéter, au lieu de paniquer, au lieu de vous laisser impressionner par ce qui se passe, regardez en haut. Regardez en haut parce que pour vous, c'est un signe de délivrance. Au contraire, vous savez que je vais bientôt revenir. Et puis le verset d'après, c'est en attendant... En fait, on doit faire attention à nos âmes pour qu'elles ne soient pas appesanties. Et donc, je voulais regarder un peu j'ai voulu faire un peu l'exégèse du verset pour voir ce que voulaient dire les mots, pour voir s'il y avait des surprises. Bon, il n'y en a pas énormément. C'est assez, ça veut dire à peu près la même chose, mais c'était quand même un peu intéressant. En regardant le mot appesanti, c'est un mot baruno qui veut dire peser lourdement, surcharger. Il y a vraiment une idée de poids, de quelque chose de très lourd. Ça vient du mot barus qui veut dire fardeau. Vous savez, c'est le mot qui est dans Luc quand Jésus dit que les pharisiens imposent aux gens des fardeaux qu'eux-mêmes ne peuvent pas porter, des fardeaux trop lourds. Donc cette idée de poids, encore une fois. Et à l'inverse, en 1 Jean, quand il est dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, pénible, c'est ce même mot, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas lourds, c'est pas quelque chose qui pèse. Et donc... Donc voilà, il y a vraiment cette idée de poids. Je pensais à l'expression qui est à la mode en ce moment, l'expression charge mentale. Et je me disais, c'est un peu ça en fait, avoir l'âme appesantie. C'est avoir une lourdeur, un poids sur l'âme. Et après, quand on regarde le verset, qu'est-ce qui met du poids sur l'âme? Il y a deux choses très contradictoires. Il y a des choses bonnes ou agréables. C'est la gourmandise et l'ivrognerie. Enfin, on va pas dire que l'ivrognerie c'est agréable, mais en tout cas des choses... le manger et le boire, ça fait partie des choses agréables de la vie courante. Et ça peut malgré tout mettre du poids sur l'âme. Et puis de l'autre côté, les soucis de la vie. Et là, les soucis de la vie, soucis, c'est un mot, merimna, qui veut dire anxiété, qui entraîne des perturbations dans la personnalité et la pensée. Donc c'est vraiment des soucis, c'est des soucis, quoi. Sérieux. C'est le même mot souci qu'on a dans la parabole du semeur quand il est dit que celui qui est planté dans les épines, les soucis de la vie l'étouffe et que ça l'empêche de porter du fruit. Et puis c'est aussi le même mot dans le sens positif qui est utilisé dans l'épître de Pierre pour nous encourager à décharger tous nos soucis sur Dieu parce qu'il a soin de nous. Et ce mot là, qui veut dire anxiété, donc ce mot souci, il vient d'un autre mot, mériso, qui veut dire diviser. Et en fait, parce qu'il y a une idée de distraction. Et c'est vraiment ça qui met du poids sur nos âmes. C'est quand, que ça soit les bonnes choses ou que ça soit les choses difficiles, les soucis, les peines, le point, c'est que ces choses-là nous distraient de ce qui compte vraiment dans notre vie, c'est-à-dire de regarder en haut, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et c'est pour ça que ça met du poids sur notre âme. Notre âme, elle est faite pour regarder en haut. Elle est faite pour glorifier Dieu, elle est faite pour le louer. Et donc tout ce qui nous rattache à la terre et nous fait regarder en bas, que ce soit les choses bonnes ou les choses qui nous attristent ou qui nous inquiètent, eh ben, c'est des choses qui mettent du poids sur nos âmes. Donc si on veut être débarrassé de la charge mentale, il faut regarder en haut, en un mot. Et alors maintenant j'aimerais, et ça c'était vraiment pour vous introduire un peu l'idée générale de ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, et après, on va mettre ça en parallèle avec la parabole des talents. Donc, je vais vous proposer qu'on la lise ensemble. C'est en Matthieu. Enfin, c'est en Matthieu et en Luc, mais on va lire celle de Matthieu. D'ailleurs, c'est pas tout à fait les talents en Luc. Je crois que c'est les mines, ce qui n'est pas exactement la même parabole. Mais là, on va lire celle de Matthieu. Donc, c'est Matthieu 25. Et on va commencer au verset 14. Matthieu 25, 14. car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt, il s'en alla hors du pays. Or, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et acquit 5 autres talents. De même aussi, celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant « Maître, tu m'as remis 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit « Maître, tu m'as remis 2 talents, voici, j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit « Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. » On va s'arrêter là. En fait, il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans cette parabole, mais en rapport avec ce qu'on a vu là depuis le début... On est dans cette période en fait où notre maître est absent pour le moment. Jésus est monté au ciel et où il va revenir, où on sait qu'il va revenir. Donc on a des exhortations pour comment se comporter pendant cette période. On a déjà vu les deux choses précédentes, donc de regarder en haut et puis de pas se laisser alourdir par les choses de la terre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et en fait. Dans cette parabole, ce qui est beau, c'est que ce qui fait la différence entre les différents serviteurs, au-delà du nombre de talents, c'est est-ce qu'ils ont continué à penser à leur maître pendant son absence? Parce qu'au final, qu'ils en aient 5 ou qu'ils en aient 2 ou qu'ils en aient 1, c'est pas vraiment la question. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au verset 15, on voit pourquoi il y en a un qui en a 5, l'autre qui a 2 et l'autre qui a 1. C'est dit précisément dans la parabole, les talents ont été donnés en fonction de leur capacité. C'est-à-dire que le maître, quand il est parti, il les connaissait et il savait de combien ils en avaient besoin, en fait. Donc, c'était pas arbitraire du tout le nombre de talents qu'ils avaient. Mais au-delà de ça, au-delà du nombre, les deux premiers, pendant que leur maître était absent, ils ont passé leur temps à s'occuper des affaires de leur maître, à faire en sorte que les affaires de leur maître prospèrent et qu'il ait plus d'argent à son retour que quand il était parti. Alors que l'autre, il a mis ça de côté. Il l'a pas volé, hein. Il avait prévu de lui rendre à la fin s'il revenait. Il l'a mis de côté, mais pendant ce temps-là, il a fait sa vie. Il a fait les choses qui lui plaisaient. Il a peut-être gagné de l'argent pour lui-même, en attendant. Mais en tout cas, ce qu'il a fait et la façon dont il a occupé sa vie, c'était pas pour son maître. Et en fait, c'est un peu ça aussi, regarder en haut. C'est être occupé des affaires de notre maître. Et c'est aussi ça qui va nous permettre de ne pas laisser notre âme s'alourdir. Parce qu'on ne va pas être occupé de nos propres affaires, mais celles de notre maître. Et je pensais à ce psaume, là, le psaume 16, qui parle de notre portion, qui dit que l'Éternel est notre portion, notre héritage. Il y a ce verset qui dit « Les cordeaux sont tombés pour moi dans des lieux agréables », c'est-à-dire l'héritage que Dieu m'a donné est un bel héritage. Et on sait qu'il y a ce parallèle avec les Lévites qui n'avaient pas de terre en Israël parce que leur héritage, c'était l'Éternel. Et donc, ils devaient servir dans le sanctuaire, mais ils n'avaient pas reçu de terre en héritage. C'était Dieu leur héritage. Et nous, si on voit notre vie comme ça, si on voit notre vie comme étant... En fait, ce qu'on a reçu en partage, c'est Dieu lui-même, ça nous donne une vision élevée qui nous permet de traverser cette vie sur la terre sans être autant affecté par les choses que nous traversons. Et puis aussi ce passage dans les Philippiens qui parle de, je crois qu'en Louis II, c'est notre citoyenneté, et dans les cieux, en Darby, c'est notre bourgeoisie. Mais vous savez, je peux vous lire le verset. Notre bourgeoisie ou notre citoyenneté est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux chrétiens, qui leur dit vous êtes citoyens, mais vous êtes citoyens des cieux. C'est ça votre ville, c'est ça votre pays. Et là, vous êtes pour le moment de passage sur cette terre, mais c'est pas là où, c'est, vous n'êtes pas de là, c'est pas votre origine. Et en l'occurrence, dans le verset où il dit ça, juste avant, il parle de personnes qui sont sur cette terre et qui oublient leur citoyenneté céleste, et il dit à leur propos, plusieurs marches dont je vous ai dit souvent et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre, et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Et c'est vraiment ça le contraste. Alors, il y va pas avec le dos de la cuillère, hein, les phrases qu'il emploie sont fortes. Mais c'est vraiment ça le contraste. Et est-ce qu'on se rappelle tout le temps que notre citoyenneté est dans les cieux? C'est ça, regarder en haut, en fait. C'est se rappeler d'où on est. Et encore une fois, ça, c'est une des choses qui va enlever du poids sur notre âme. Parce qu'on va... Les choses de la terre auront moins d'importance si on se rappelle d'où on est, où on appartient, en fait, à quoi on appartient. Et puis je pensais aussi à un autre verset dans ce que j'avais jamais lu avec cette idée-là. C'est Hébreux 12, le début d'Hébreux 12, les versets 1 et 2. Vous savez, c'est ce verset qui dit « C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entoure, courons la course qui est devant nous ». Et moi, quand je lis ce verset, je pense toujours à la nuée de témoins. Et du coup, je crois que je n'ai jamais fait attention à la suite. Pour moi, c'est le verset de la nuée de témoins. Et je n'ai jamais fait attention à ce que ça disait après. Et là, du coup, j'ai regardé un peu plus après. Et c'est le même sujet. La suite du verset, c'est « Ayant une si grande nuée de témoins qui nous entoure, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus. » En fait, rejetant tout fardeau et le péché qui est devant nous. Il y a le péché dans les fardeaux, mais il n'y a pas que le péché. On a vu que dans les fardeaux, il y a aussi des bonnes choses, mais des choses qui nous attirent vers la terre, en fait. Des choses qui nous font regarder en bas, qui attachent notre cœur à la terre et qui, au final, mettent du poids sur notre âme et nous empêchent de courir la course comme on voudrait la courir. Et puis aussi, c'est courons avec patience. C'est pas une course qui dure 20 secondes. C'est une course qui va demander du temps et on aura besoin probablement tout le long de se rappeler « Attends, faut que je regarde devant, c'est vrai, faut que je regarde à Jésus. » Parce que chaque fois qu'on arrête de regarder à Jésus, ça paraît encore plus dur de courir. Donc, voilà, encore cette même idée. Et alors, du coup, je pensais à des illustrations dans la Bible de ce thème. Quand vous pensez à de la charge mentale, vous pensez à qui en premier? Vous n'êtes pas comme moi j'avais un nom tout de suite. Je pense à vous aussi. Qui ça?
Moïse et le peuple.
Oui, ben, le pauvre. Oui, c'est un bon exemple. Moi, je pensais à une femme, mais...
Marthe.
Mais ouais, Marthe. Enfin, Marthe, c'est... Ben, Marthe, c'est celle qu'on est très souvent, en fait. C'est celle qui est tellement occupée par toutes les choses qu'il y a à faire qu'elle perd de vue les choses importantes. Et elle est vraiment dans les versets qu'on a lus dans Luc, Marthe. C'est qu'elle a l'âme appesantie par les choses... plutôt bonne en l'occurrence qu'elle a à faire puisqu'elle est en train de servir le maître, donc c'est des choses bonnes, mais en même temps ça l'empêche de lever les yeux en haut, ça l'empêche, elle passe à côté de quelque chose parce qu'elle est trop occupée par ces choses là et c'est pour ça que Jésus lui dit une seule chose est nécessaire. Ce qu'elle faisait était pas mal du tout, c'était bien et c'était important aussi, mais c'était pas la chose qui était nécessaire à ce moment là et je me disais aussi parce que parfois, on se dit, bon, c'est facile à dire de dire ça, mais il y a quand même des choses à faire. Et nous, en tant que femmes, en tout cas, c'est souvent le sentiment qu'on a, qu'on connaît la théorie, on connaît la vérité, on sait que la chose importante, c'est d'écouter Jésus. Et en même temps, on sait que quand le pasteur va finir de parler, il va falloir servir le repas derrière et que bah, ça, il va pas se préparer tout seul, le repas, qu'il y a des choses à faire. Et je réfléchissais, en fait, que j'avais un peu cette impression qu'on entend... dans la société dans laquelle on vit, que les femmes portent la charge mentale et qu'en gros, on ne peut rien y faire, que c'est comme ça. Il y a une charge mentale dans le monde parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et tout d'un coup, j'ai réfléchi à la femme de Proverbe 31, la femme vertueuse. Vous voyez tout ce qu'elle faisait? Elle n'avait pas l'air d'avoir de charge mentale, elle. Mais quand vous lisez la liste, je peux regarder un petit peu là pour le survoler avec vous, la liste de choses qu'elle faisait, je ne sais pas s'il y en a une parmi nous qui a autant de choses sur son emploi du temps, sauf peut-être Pascal. Mais c'est impressionnant quand vous lisez la liste. Alors, elle cherche de la laine et du vin, elle travaille de ses mains, Elle amène son pain de loin comme les navires. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle distribue la nourriture à sa maison. Elle distribue les tâches à ses servantes. En plus de tout ce qu'elle fait dans sa maison, elle pense à un champ pour faire prospérer encore son affaire. Elle va acheter le champ elle-même. Hein. C'est pas son mari qui va. Elle va acheter le champ. Après, elle-même, du fruit de ses mains, elle plante une vigne dans le champ qu'elle vient d'acheter. Elle ceint ses reins de force. Elle fortifie ses bras. De nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Elle n'arrête pas la nuit. Elle met la main à la quenouille. Ses doigts tiennent le fuseau. Donc, en plus, elle fait les vêtements. Elle a encore du temps pour tendre sa main vers l'affligé, vers le nécessiteux, pour faire du bien à ceux qui manquent. Elle ne craint pas la neige parce que toute sa maison est vêtue d'écarlate. En plus, elle s'est fait des rideaux, des tapisseries, des machins, tout ça. Elle se fait des tapis, d'ailleurs, c'est écrit. Des vêtements en fin coton et en pourpre. Elle fait des chemises qu'elle vend. Elle en fait pour son mari aussi, on le connaît, à la porte de la ville. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle arrive encore à faire ça pour gagner des sous. Et je crois que c'est à peu près tout, mais ça fait déjà pas mal. Et à aucun moment, on voit cette femme qui, donc quand on lit tout ça, alors évidemment, on n'a pas forcément son point de vue, mais on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui croule. Elle a l'air heureuse quand on lit. Ses enfants la louent, son mari la loue, elle a l'air d'avoir une vie pleine et heureuse. Donc c'est possible d'avoir plein de choses à faire sans pour autant avoir l'âme appesantie, sans pour autant avoir l'âme lourde. Et alors après, le secret, je sais que ça reste toujours de regarder en haut, évidemment. Mais il y a probablement après des secrets dans les choses pratiques. Et peut-être après, vous aurez des idées, on pourra échanger des idées de choses pratiques qui nous aident à pas laisser le poids venir sur nos cœurs et qui nous aident à rediriger nos regards en haut quand on sent que ça devient lourd. Moi, j'ai juste réfléchi à deux choses qui me semble pratique pour ça. Une des choses, c'est j'y pensais en écoutant le message de pasteur Jean-Paul, je ne sais plus si c'est dimanche dernier ou mercredi, enfin en tout cas il n'y a pas longtemps, quand il a prêché sur le psaume 131, qui dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Et je me disais, une des choses qui peut mettre du poids sur notre âme, et ce n'est pas nécessaire, c'est de s'inquiéter de toutes les théories qu'on entend, de toutes les choses qu'on entend, que ce soit à la radio, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, parfois nos collègues, les gens qui nous entourent et qui nous racontent toutes sortes de choses, soit vraies, mais qui ne nous concernent pas ici maintenant, soit même des choses qui supposées, qui sont, on ne sait pas si elles sont vraies, des théories. Toutes les théories du complot, bien sûr, mais aussi les gens qui se font du souci en permanence pour ce qui se passe loin. Et si on laisse ces choses-là entrer dans nos âmes, on n'a pas la solution pour ces choses-là, par définition. D'abord, on ne sait même pas lesquelles sont vraies et lesquelles ne le sont pas. Et même celles qui sont vraies, on n'a pas l'issue. On ne sait pas comment ça va tourner. On sait pas. Et en fait, entretenir ces choses dans nos âmes, c'est une des choses qui donne du poids et dont on n'a pas besoin. Ça ne nous est pas demandé. Ça ne fait pas partie des talents que Dieu nous a donnés. Dieu a donné à chacun selon sa capacité, et moi je suis pas présidente de la République, donc dans mes talents, il n'y a pas de m'occuper de comment on va régler la situation avec Moscou. Donc il faut pas que je m'en occupe en fait, ça m'appartient pas, je le remets à Dieu, et je laisse pas ça mettre du poids sur mon âme. Et je repensais à cette phrase que d'ailleurs les non-croyants répètent beaucoup, mais sans se rappeler que c'est un chrétien qui a dit ça au début. Vous savez, ça s'appelle la prière de la sérénité. Il y a plein de gens qui le vendent pour mettre sur le mur et tout. Mais c'est « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses qui peuvent l'être et la sagesse d'en connaître la différence. » Et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une des clés pour pas avoir du poids sur l'âme. C'est qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais qu'on ne peut pas changer, qui ne sont pas dans nos mains, qui ne sont pas de notre ressort. C'est inutile de nous en inquiéter ou que ce soit tout le temps le sujet de nos conversations aussi. Parce que on peut rien y faire. C'est comme ça. On peut rien y faire. On peut prier à ce sujet. On peut y faire dans ce sens-là. On a quand même cet accès-là qui est énorme. On peut prier. Mais ne nous laissons pas accabler par les choses auxquelles on peut rien faire. Et puis en revanche, il y a d'autres choses où c'est notre responsabilité parfois de dire et de faire des choses pour que ça change à notre niveau, dans le domaine où on est, peut-être à notre travail, peut-être dans notre voisinage. Et là, il faut parfois du courage pour dire ce qu'on croit, même si c'est pas ce que les autres autour pensent. Et des fois, la ligne entre les deux, elle n'est pas très facile à trouver. Des fois, on ne sait pas trop où s'arrête le domaine où il faut que j'ai du courage pour dire quelque chose, et puis le domaine où c'est plus grand que moi et il faut juste que je laisse. Et donc, dans ce domaine-là, eh ben, il faut demander la sagesse à Dieu de connaître la différence. C'est « Seigneur, montre-moi ». Est-ce que ça, c'est un domaine où il faut que je sois courageuse et que je dise c'est comme ça, c'est pas autrement, je crois que c'est comme ça? Ou est-ce que ça, c'est un des domaines qui est au-dessus de moi, qui ne me concerne pas, et il faut juste que je te laisse faire? Mais connaître cette limite-là, c'est une des choses qui enlève du poids pour notre âme. Et donc ça, c'était ne pas penser à des choses trop élevées pour nous ou les choses qui ne nous concernent pas. Et après, l'autre chose, c'est là que ça pique un peu. Hein. Je suis désolée, mais ça pique forcément pour moi, parce que c'est toutes des choses que j'ai eues dans mon âme ou que j'ai encore par moment. Sinon, je n'y aurais pas pensé. Donc, si jamais vous vous reconnaissez, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. C'est toutes les fois, tous les domaines dans lesquels on essaye de tout contrôler dans nos vies. Et alors, on est plus ou moins comme ça, des gens qui contrôlent tout. Mais je crois qu'on a tous une part de ça quand même. Et de plus en plus dans le monde dans lequel on vit, c'est que... Parce que le monde nous apprend à vivre comme ça. Le monde nous fait croire déjà qu'on peut contrôler nos vies, ce qui n'est vraiment pas vrai. Mais il nous fait croire que c'est possible. Et donc, on a tendance à vouloir tout contrôler, toutes les situations. Et en fait, c'est épuisant. C'est épuisant de contrôler, parce qu'on n'est pas Dieu. On ne sait pas comment les choses vont finir à la fin. Et du coup, être toujours en train de tirer les ficelles pour que ça se passe comme on voudrait que ça se passe, c'est fatigant et ça met du poids sur notre âme. Et il y a des trucs qui sont bêtes, vous allez rire, mais... on peut se laisser gâcher la journée parce que quelqu'un a pris la place qu'on aime dans le bus ou dans le train. Alors qu'en vrai. Ok, on a tous une place, enfin presque tous une place préférée. Elle est libre, tant mieux. Mais si elle l'est pas, est-ce qu'il y a vraiment de quoi avoir du poids sur l'âme pour l'heure qui vient ou pire pour la journée, parce que la place n'est pas libre. Après, il y a d'autres trucs. À mon boulot, j'ai remarqué, on travaille en équipe dans les ambulances. Et donc, il y a un médecin, un conducteur et un infirmier. Et normalement, quand on arrive le matin, on vient se présenter au centre de régulation. Et au moment où on arrive, à l'heure à laquelle on arrive, on nous met dans l'équipe par ordre d'arrivée, quoi. On nous met dans l'équipe en fonction. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a plusieurs qui essayent de trafiquer ça. C'est-à-dire qui essayent d'attendre de voir qui est là pour arriver après, pour pouvoir choisir dans quelle équipe tu es et avec qui tu vas faire la journée. Et bien sûr, on a tous des préférences. On préfère tous faire notre journée avec Paul plutôt qu'avec Jacques, parce que c'est humain, c'est comme ça. On a plus d'affinité avec Paul qu'avec Jacques. Ça ne veut pas dire que Jacques n'est pas bien, mais c'est juste que nous, on préfère Paul. Mais est-ce que c'est vraiment important, parce que je préfère cette personne, de passer ma journée avec celle-là plutôt que l'autre? Est-ce que je ne vais pas perdre des occasions avec l'autre aussi, ou jamais connaître l'autre au final, parce que je veux toujours être avec celle-là? Et mine de rien, c'est toute petite chose. De penser à ça le matin, de se dire « Ah, il faut que je fasse attention d'être dans l'équipe machin plutôt que dans l'équipe truc », c'est du poids dont on n'a pas besoin. C'est de la charge mentale complètement inutile, mais qu'on se rajoute parce qu'on prête attention à des choses qui n'ont pas d'importance, en vrai. Je pensais à un autre truc aussi. C'est tous des trucs très pratiques, mais c'est tous des trucs dans lesquels je suis tombée, donc vous saurez tout de moi à la fin. J'ai remarqué une chose aussi, c'est que des fois, ça m'est arrivé d'aller dans des voyages missionnaires ou à des conférences avec un peu plusieurs objectifs. C'est-à-dire, je me réjouis d'aller à cette conférence pour la parole, pour la communion fraternelle, etc. Et puis aussi parce que c'est dans une ville que je connais pas ou dans un pays que je connais pas, et je vais pouvoir visiter un ou deux trucs, voir des choses, et ça va être chouette. Et je me suis rendu compte, là, le dernier voyage que j'ai fait, quand je suis allée au Maroc, la façon dont ça s'est fait, le fait d'aller au Maroc, c'était pas vraiment un choix personnel. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait un besoin de traduction, parce que Pasteur Chibéi devait y aller pour faire la conférence, et que Annick se sentait pas de... Enfin, elle s'inquiétait à l'idée de traduire, parce qu'elle n'a pas l'habitude de le faire pour toute la conférence. Et donc voilà, Dieu m'a mis à cœur de le proposer. Et en même temps, j'avais pas vraiment le sentiment d'aller à une conférence. J'ai personnellement pas de vrai désir d'aller au Maroc. C'est pas un pays qui m'attire. Donc j'y allais du coup très librement en me disant je viens traduire parce qu'il y a un besoin et j'y vais que pour ça. Et j'avais pas d'autre but en fait. Bon, j'étais contente de voir Pasteur Dario et Annick parce que voilà, on a prié pour eux, j'avais envie de voir leur contexte, mais j'avais vraiment pas d'autres plans. Et je me suis rendu compte, j'ai jamais autant profité d'un temps que cette fois-là, parce que j'avais un seul objectif. Et en fait, quand il était question de, ah, si vous voulez, on peut aller visiter la Médina, si vous voulez, on peut faire ça, ça m'était complètement égal. C'est si tout le monde y va, j'irai volontiers, mais si c'est une option, je suis pas là pour ça, quoi, ça m'intéresse pas. Et du coup, ça m'a fait réfléchir en me disant, c'est aussi une des choses parfois qui a mis du poids, je crois, sur mon âme, c'est de vouloir faire trop de choses au lieu d'avoir un objectif. Et de vouloir faire tout rentrer, en fait, de jamais arriver à choisir entre le beurre et l'argent du beurre, de vouloir les deux en permanence. Et du coup, on essaye de faire rentrer trop de choses dans un emploi du temps qui est limité en termes de temps. Et on s'épuise et on profite d'aucune des choses en vrai, parce qu'on passe notre temps à courir entre le beurre et l'argent du beurre, et ni l'un ni l'autre n'a vraiment d'intérêt, alors qu'il parfois il suffirait juste de dire à Dieu, montre-moi, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est le beurre ou l'argent du beurre que tu veux que j'aie, mais j'ai pas besoin des deux, je peux avoir qu'un. Et aussi des fois, en faisant ça, en contrôlant, en choisissant, en essayant d'organiser les choses, ben on se trompe, parce que ce qu'on croit être le meilleur, c'est pas toujours ce que Dieu pense être le meilleur. Et quand les choses se passent pas comme on avait prévu, des fois on se rend compte que Dieu avait raison, qu'il avait quelque chose de meilleur, mais c'était juste le truc qu'on essayait d'éviter depuis le début. On avait fait des pieds et des mains pour pas faire ça, et puis au final on se retrouve à faire ça parce qu'en vrai on contrôle pas tout. Et on se rend compte que c'était très bien. Donc voilà, toutes ces choses, moi ça me fait réfléchir sur le fait que plus on peut laisser Dieu choisir les choses dans nos circonstances, plus on peut ne pas tout planifier à la virgule et à la minute. Bien sûr, il faut planifier, je suis loin de vous dire qu'il ne faut pas le faire, je suis quelqu'un qui planifie. Bien sûr qu'il faut faire des plans, mais il faut faire des plans comme l'apôtre Paul. Il faut faire des plans jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à ce que Dieu me dise autrement. Et puis si Dieu dit finalement c'est pas du tout comme ça, c'est autrement, bah c'est pas un drame, c'est voilà, on va se réadapter à la nouvelle chose, et c'est pas grave si tout se passe pas comme prévu ou comme j'aime le mieux, ou c'est au final pas si important. Et c'est tout, voilà, tout ça c'est des petites choses, mais qui contribuent à enlever du poids. Et puis pour terminer, je vais vous lire deux passages à ce sujet. Que vous connaissez bien les deux, mais je trouve que c'est bien de les lire quand même en entier. Le premier, c'est Matthieu 11, les versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Et vous qui êtes chargé, c'est le même mot que les âmes appesanties. C'est ce côté chargé. Et puis Matthieu 6, encore un passage bien connu. En commençant au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez aux oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand il est dit « Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses », le mot pour « sait », c'est « eido », et en fait ça veut dire « voit », « remarque », même « prête attention » avec le sens de « chérir ». C'est-à-dire que la raison pour laquelle on peut ne pas se faire de soucis, c'est pas parce que on se dit « Oh, tout ira bien », c'est pas parce qu'on est optimiste, c'est parce qu'on sait qu'on a un père qui est au courant de chacune de nos circonstances et qui s'en soucie, qu'il les voit, il nous voit, il voit exactement ce qui se passe avec nous, et il nous chérit, il nous aime. Donc il va prendre soin de ces choses et on peut lui faire confiance pour ces choses. Et c'est dans ce sens-là que le fait de regarder en haut enlève la charge, parce qu'en fait, ce qu'on a à voir en haut, c'est ce regard du Père qui nous aime, qui nous voit, qui voit nos situations et qui veut nous donner tellement plus.